Bon, alors, je commence par le commencement.
Allez-y.
Je ris pas. Bon, alors, 10 ans, on est parti de... Mon gamin, l'aîné, avait, enfin, 5 jours il avait. Hein. Nous sommes arrivés à... Pour moi, c'est une ville qui est catalane et qui est très dure. Si vous êtes pas, vous vous intégrez pas, vous n'arrivez pas, il n'y a rien à faire. Le catalan... Quand vous arrivez, vous qui êtes d'une autre province, il parle le catalan et il ne fait pas attention si vous, vous le comprenez ou si vous ne le comprenez pas. Et d'ailleurs, on dit catalan, cap des bourgs, ça veut dire catalan têtu. Mm-hmm. Et, il est têtu, il est gentil, oui, mais entre eux, c'est des clans, c'est des... on ne s'intègre pas. Moi, personnellement, j'ai beaucoup souffert à... de ça, j'ai pas été intégrée, je venais d'une autre province, j'étais pas bien parce que quand je rentrais dans un magasin, ben ils vous regardaient bizarrement. Et puis il y a quand même de ça 30 ans, enfin 29 ans en arrière, hein, alors déjà ils vous regardaient, mais ils continuaient à parler leur dialecte, le catalan, quoi. Tandis que on est parti, on est allé après, au bout de 2 ans que nous avons passé à... On est allé en Corse. Et je sais pas, pourtant, le Corse est réputé pour être sauvage. C'est là que j'ai eu un bon accueil. Je sais pas si c'est parce que on était une petite minorité, puisque c'était un camp militaire. Et disons, ce camp militaire, nous étions que... On était entre nous. Mais malgré ça, quand en 63, quand mon mari a eu son accident, j'avais un concierge qui était corse, j'ai eu des Corses autour de moi qui m'ont vraiment plus aidée que nous métropolitains, finalement. Ceux de la métropole, disons. On a été vraiment bien aidés. Je me rappellerai toujours, quand mon mari a eu son accident, qu'il a commencé à faire sa rééducation, parce qu'il est quand même resté 6 mois dans le plâtre, hein, il est en parachute, il est tombé sur un toit, et le pépin s'est regonflé au sol, il est parti en arrière, enfin il a eu les jambes fracturées, péronnées, tibia et tout ce qui s'ensuit. Et ce concierge-là, quand ça a été au moment de la rééducation, en parlant un jour à l'épicerie, j'ai dit, mon Dieu, il faudrait que je trouve une bicyclette pour mon mari, parce qu'il faudrait qu'il fasse beaucoup de bicyclettes. Il m'a ramené un vieux clou, il faisait gling, 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 gling. Mais alors, il avait été chercher ça, je ne sais pas où, mais en fait, on a senti que c'était vraiment du fond du cœur qu'il me ramenait ce vélo. Il m'a ramené ça, après, tous les jours, il venait me le chercher pour aller faire des palmes dans le port. Je veux dire, j'ai trouvé que, avec tout ce qu'on disait sur les Corses, qui ne nous aimaient pas parce qu'ils nous appellent les pinchoutes, nous, hein, eh bien, pour nous, non, c'était... Enfin, moi, personnellement, je les ai bien aimés parce qu'on était intégrés, on s'était intégrés à eux. Le Corse, il est comme ça, ou il vous aime, ou il ne vous aime pas. Et nous, on s'était intégrés. Alors, bien sûr, on allait... Mon mari, après, quand il a recommencé à conduire, il allait dans les fermes avec ce gars-là, chercher du fromage, chercher du cabri, chercher enfin de tout, parce qu'on s'était vraiment intégrés. Mais disons que c'était c'était en 63, avant qu'il y ait tous ces pieds noirs qui arrivent sur là-bas, et qui c'est à ce moment-là que la Corse, disons, elle a eu, parce que nous après on s'en est rendu compte, hein, au moment
où...
Ah oui, ce changement-là. Le changement. Là, vous vous rendez compte que nous, étant militaires, enfin mon mari étant militaire, on mangeait pas de poisson de là-bas. On était à... On mangeait pas du poisson. Le poisson venait du continent. On allait chercher le poisson alors que nous étions les pieds dans l'eau. Tout ça parce qu'il n'y avait pas un pêcheur corse qui... Ils ont attendu que tous les pieds noirs arrivent pour avoir les rôles de pêche, tout ça. Après, bien sûr, ils en ont voulu aux pieds noirs qui ont eu des subventions, des trucs comme ça. Mais finalement, ce n'était pas leur faute à eux. Eux, ils n'avaient qu'à exploiter leur rôle de pêche. Pourquoi ils n'allaient pas pêcher? Ils attendaient que nous, on aille chercher le poisson. On avait un avion qui allait nous chercher. Bon, mais en plein hiver, c'était normal. Hein, parce qu'une ville qui, l'hiver, a 18 000, l'été du moins, a 18 000 habitants, l'hiver, elle se retrouvait, on était 2 000. Vous voyez la différence qu'il y a, tous les commerces étaient fermés et tout le monde partait sur le continent. On se retrouvait, on était seuls, quoi. Alors il fallait bien qu'on se débrouille. Alors on avait un avion qui partait, qui allait sur Nice, qui nous faisait le ravitaillement en légumes. Bon, c'est tout à fait normal parce que la Corse, à part la côte orientale, qui avait pas mal de légumes et des trucs comme ça, mais sinon, nous, du côté où nous étions, c'était le désert, il n'y a rien du côté de... C'était vraiment touristique, disons, que l'été. Après, il n'y a absolument aucun arbre fruitier, aucun jardin, ou rien du tout, quoi. D'ailleurs, on n'était pas loin du désert des Agriates. Le désert des Agriates, là, vous voyez, mon mari a fait un stage sur vie. Hein, ils sont partis 8 jours avec une boussole, ils mangeaient des racines, ils mangeaient tout ce qu'ils trouvaient. C'est vraiment le désert, hein, il n'y a absolument rien. Et pour finir de vous dire, donc, on se retrouvait faire nos courses. On avait un avion qui partait une fois par semaine sur nous faire toutes les courses, que ce soit du poisson, que ce soit de la viande, que ce soit de n'importe quoi, à part le fromage et les trucs comme ça, avant justement de connaître... la mentalité des Corses après, une fois qu'on a commencé à connaître, qu'on a été intégré avec eux, ben, ça a été plus facile. On est arrivé à avoir des œufs, on est arrivé, bien sûr, leur payant, hein, parce que c'était normal, mais c'était plus frais, c'était de la campagne. Mais ça a été dur au départ. Mais après, une fois qu'on y est, c'est impeccable. Hein. Après, on est parti, mon mari, dont il y a eu son accident, il a été muté à... Moi, je ne suis pas restée. Disons que moi, j'ai juste fait que passer, on est monté à... Ben, l'Auvergnat, il est pas mal. Si, l'Auvergnat, mais on est guère resté, il est bien, l'Auvergnat. Il n'y a pas de problème avec eux. Mais enfin, disons qu'on est guère resté, on est resté de 60... Enfin, quand même, on est resté 3 ans. Mais enfin, disons que j'ai... Comme on n'avait pas eu de problème, il n'y a pas eu de maladie, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a rien eu. Disons qu'on s'est... On était toujours pareil, c'était un quart militaire. Alors on était toujours de côté, on s'intègre en Auvergne, on s'est moins intégré à la population. Que... Après, on est parti, on est allé dans l'est de la France. Alors là, dans l'est de la France, mon mari, à l'âge de 18 ans, quand il a débuté dans l'armée, il avait commencé à être dans l'est de la France. Il était à exactement. Et il avait connu des jeunes de... et qui après se sont mariés, des jeunes filles, des jeunes gens, qui après se sont mariés. Puis nous, quand on est remonté en 66-67, disons que nous sommes arrivés là-haut, mon mari, lui, quand il y est allé un mois avant moi, a revu des collègues à lui, qu'il avait fait jeunesse avec, qui avait pris femme, qui avait eu des enfants. Et disons que quand moi je suis arrivée, on est arrivé exactement un 29 décembre, c'était le jour de l'arbre de Noël, je me rappellerai toujours. Le déménagement avait été fait, et quand je suis arrivée, pratiquement nous, avec 3 enfants, c'était un peu dur. Quand nous sommes arrivés là-haut, mon déménagement était tout installé, parce que justement, mon mari avait rencontré ses collègues, et quand le camion de déménagement était arrivé, ses collègues étaient venus à l'appartement, et elle avait dit, bon ben, voilà, vous mettez la chambre à tel endroit. Ils avaient fait comme si ça avait été pour eux. Et moi, donc nous sommes arrivés le matin, et à midi, ce qui m'avait plu, j'arrive à midi, pas de dîner à faire, rien du tout. On m'avait préparé une belle choucroute, d'ailleurs j'en avais jamais mangé. Une belle choucroute bien garnie. Et ma foi, disons que même à l'heure actuelle, même c'est des gens, la dame là avec qui m'avait préparé le déménagement, qui m'avait rangé toutes mes affaires, placé les meubles dans divers endroits, qui est maintenant la marraine de ma dernière gamine, qui a 15 ans, quoi, parce que vraiment, on a lié d'amitié, on jouait aux cartes, une fois chez les uns, une fois chez les autres, on est resté. Mais c'est toujours pareil. Nous étions, c'était pas bien, nous étions à 50 km de... C'était vraiment à la frontière luxembourgeoise, sur la frontière, sur la ligne Maginot. Et là... le soir, à partir de 5 heures, il y avait du brouillard, il n'y avait plus rien. Vous savez, il n'y avait pas de pharmacie, il y avait absolument, c'était vraiment le nid d'aigle. Il n'y avait rien. Alors, il fallait bien qu'on s'occupe, on était jeunes. Moi, j'avais, donc, c'était en quelle année, 70, j'avais 30 ans. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, j'avais 30 ans, en 70. Alors, ça de suite, le soir, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, on est des petits, avec des petits copains. Bon, ils allaient chez les petits copains, le mercredi, tout ça, le dimanche. Mais nous, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, on jouait aux cartes. Et c'est, ça a été déjà que même à l'heure actuelle, ils sont venus il y a 2-3 ans à la maison, ils sont restés pendant 15 jours quand ma fille a fait sa communion. Mais nous, ils nous attendent avec impatience pour qu'on y remonte. On a gardé des liens de. Et c'est des Lorrains. Quoique pas bien Lorraine, puisque elle est de maman. Sa maman est. Oh là là, pas hongroise.
Enfin, mais bien... Polonaise ?
Non, pas polonaise. Tchécoslovaquie ou quelque chose. Il y a beaucoup de dans les mines là où il y a beaucoup de gens comme ça. Et la maman de cette dame, c'est des anciens mineurs, les parents de cette dame qui avait épousé un militaire, qui était collègue avec mon mari. Mais c'est beaucoup des Hongrois, des trucs comme ça là où parce qu'il y avait la mine là où à l'époque. Turc. C'est pas c'est la Turquie. Elle était turque la maman. Et disons que ça, on n'a donc pas bien la mentalité du Lorrain, parce que le Lorrain, en définitive, on ne l'a pas trop connu. On connaît plutôt des gens comme ça qui se sont eux aussi intégrés à la vie de Lorrain. Mais le Lorrain par lui-même, on l'a pas tellement connu. Parce qu'après, bon, on est redescendu à même. Et à même, vous savez, on était dans des HLM, et dans des HLM, on n'était que des militaires. Alors on avait de tout là-dedans. Hein. On avait des gars des Bouches-du-Rhône, on avait des gars qui étaient des Alsaciens, on avait des gars qui étaient du Périgord, on avait des gars un peu de partout. Mais des Lorrains même, on ne les a pas côtoyés, à part dans les épiceries. Mais vous savez, dans les grandes surfaces, on n'a pas comme quand on a débuté il y a 30 ans en arrière, à... Parce qu'encore il y a 30 ans en arrière, il n'y avait pas de grande surface. Il y avait juste les petits commerçants du quartier où nous allions. Tandis que là-haut, la Lorraine, de suite, c'était la plus grande ville. Ça faisait 30 ans et on allait directement au libre-service. On n'allait pas à la petite épicerie. Ça fait qu'on n'a pas côtoyé, disons, le Lorrain. Le Lorrain, aussi, en Auvergne, là, oui, on allait chez le commerçant. Mais enfin, disons, non, moi, les deux meilleurs souvenirs que j'ai, c'est et la Corse et la Lorraine. Parce que justement, la Lorraine, pour cette raison-là, on s'est retrouvés avec des gens qui étaient du même, pareil que nous, quoi, qui sont arrivés là, ils ont été implantés là, il a fallu qu'ils se débrouillent, quoi. Mais sinon, moi, personnellement, la Corse et la Lorraine. Parce que j'ai un mauvais souvenir. Alors quand on m'en parle, j'y suis repartie volontiers. Vous voyez, c'est l'année dernière. Non, cette année-là, enfin, en 88, j'y suis allée on y est allé à un congrès militaire avec mon mari. Mais ça m'a fait plaisir. J'ai rencontré des gens que j'avais pas vus depuis X années, enfin 28, 29 ans, puisque mon fils il a 29 cette année. Hein. Eh bien, j'étais contente de les revoir. Mais enfin, on a parlé de nos malheurs. On a parlé, tu te rappelles, quand on venait chez toi parce que... on était jeune de ménage, hein, on n'y arrivait pas à la fin du mois, alors on se mettait à plusieurs... Pour finir de nos mois, on s'arrangeait. Et surtout le week-end, de se mettre ensemble. Bon, mais nous, on avait un peu plus de paye, puisqu'on avait un petit en plus. Alors, notre salaire était un peu plus fort. Alors, nous, c'était un jeune couple... Ben, ils n'y arrivaient pas. Alors, on avait pris un logement à deux, de façon à pouvoir... bon, mais quand on les a revus maintenant, on était contents de les revoir. Ça nous a fait quelque chose. Hein. Je me rappelle quand... parce qu'elle avait... La dame là, que j'ai revue, elle avait une petite, elle s'appelait... Mon fils, il s'appelait... Et quand un pleurait, l'autre pleurait, parce qu'ils avaient peut-être 3 semaines, 1 mois d'écart. Alors, je me rappelle quand... pour commencer à pleurer, oui, alors, parce qu'on avait pris un logement où il y avait une salle à manger, une cuisine, mais 2 chambres. Hein, alors, quand il y en avait un qui commençait à pleurer dans une chambre, l'autre aussi. Mais on était obligé de faire comme ça parce qu'on n'avait pas de... On n'avait pas suffisamment d'argent pour pouvoir se payer un logement. Alors, on avait pris un logement à deux. Voilà, parce que c'était toujours pareil. Les logements, à l'époque, ils n'étaient pas... Et comme maintenant, hein, ils étaient chers. Hein. Et comme on débutait, ben... Voilà. Mais enfin, disons que les meilleurs souvenirs que j'ai eus, c'est la Corse et l'Est de la France. Hein, parce que, bon, premièrement, en Corse, on avait un bel appartement. On avait un appartement avec... quand mon mari allait sauter, parce qu'il était parachutiste, quand mon mari allait sauter, le matin, il me disait, ben, je m'en vais, aujourd'hui je saute, tu pourras nous regarder. Alors par le balcon, on regardait, on les voyait sauter là sur la baie de... Là, c'était magnifique, c'était beau. La seule chose que j'ai eue, c'était le jour du tremblement de terre qui a eu au mois de mars, non, plus tard, puisque mon mari était déjà les deux pieds dans le plâtre. Il y a eu le tremblement de terre à Skopje en Yougoslavie en 1963. Et je me rappellerai toujours, nous on était couchés le matin, ça devait être 6h le matin, puis tout d'un coup, tout bouge, mon mari, lève-toi, va-t'en. Mais je dis, pourquoi tu veux que je me lève, que je m'en aille, hein? Je dis, je suis bien moi là, lève-toi, va-t'en, prends les petits et pars. Et moi je cherchais les chaussures de partout dans la maison. Il me dit, mais tu partiras. Et j'ai dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai dit, et puis je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Je ne comprenais pas pourquoi il voulait que je m'en aille. Et bien, c'était le tremblement de terre. Mais moi, le temps que je réalise que c'était le tremblement de terre, j'ai d'abord cherché les chaussures de mes enfants. J'ai pris mes deux petits. Et j'avais ma fille, elle avait donc 1 mois et demi, 2 mois. Je l'ai laissée dans la chambre, celle-là. Je suis partie avec les deux garçons, je l'ai laissée la fille. Bon, et même à l'heure actuelle, ma fille, elle me dit, maman, tu te rends compte, tu m'aimes pas. Hein. Moi, vraiment, tu m'aimes pas. Tu es partie avec mes deux frères et moi, tu m'as laissée dans la... Je l'ai laissée carrément dans la chambre. Hein. Je suis partie, j'ai laissé ma fille. Hein. Et moi, je tournais. Mon mari, mais va-t'en, bon sang, prends les petits et pars. Lui, il ne pouvait pas descendre, il avait les deux jambes dans le plâtre. Hein. Il était jusque-là, hein. Pendant 6 mois, il est resté comme ça, les deux jambes dans le plâtre. Hein. Il a eu en tout 18 fractures à chaque cheville, plus tibia et péroné. Quand ça s'est passé, ça, quand mon mari a eu son accident, le matin, il y avait un plafond bas, là, comme ces jours-ci, quand il y avait le ciel gris, vraiment. Et comme pour passer par la route, pour aller à... C'est que des tortillons comme ça. Ils ont dit, on va le faire partir par hélicoptère. Mais par hélicoptère, hein, l'hélicoptère ne pouvait pas décoller, le plafond était trop bas, plutôt que de se casser la figure. Ils l'ont transporté avec un avion dessous. Et alors, le plus beau, c'est que dans l'endroit où ils l'ont transporté, à côté, il y avait un cercueil avec un gars qui s'était hydrocuté en sautant. Il a sauté en mer et il s'était hydrocuté. Alors, mon mari était inconscient d'un côté et de l'autre côté, il y avait un cercueil avec... Alors, vous voyez un petit peu le voyage qu'il a fait. Hein.
Il s'était électrocuté?
Non, une hydrocution. Ah. En sautant en parachute, quand il a touché l'eau, une hydrocution. Hydrocution,
il y a beaucoup d'accidents comme ça,
c'est parachutiste. Non, mon mari vraiment, quand il a eu son accident en 63, ça a été vraiment, parce qu'il y avait, je ne sais pas combien il y a de vent qui, dans la baie de Calvi, là, combien il y a de vent, et quand ils tournaient avec leurs avions, il a sauté normalement, en sautant normalement. Normalement, s'il n'y avait pas eu du vent au sol, hein, parce qu'au moment où il est parti, au moment où il arrive, au moment de sauter, il y a une rafale de vent qui l'a pris et qui l'a fait tomber sur le toit d'un bâtiment. Mais si le pépin était tombé sur le toit du bâtiment, eh bien, mon mari se dégrafait et laissait le pépin sur le toit. Tandis que lui, mon mari, est tombé sur le toit, mais le pépin est tombé au sol, enfin, c'est-à-dire dans le coin du bâtiment. Et il a été regonflé par le vent en coin de bâtiment. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de se dégrafer, que le parachute l'a retiré en arrière. En le retirant en arrière, il n'a pas eu le temps. Et il s'est quand même mis en position de saut, mais il n'était plus transporté par le pépin. Il est tombé carrément. Les chaussures du 3 mètres, enfin une hauteur d'un immeuble, un immeuble de 3-4 étages. voyez les chambres des appelés de 3-4 étages. Il avait les chaussures, les rangères, ses chaussures dessous, là, hein, éclatées, parce que la jambe, en sautant, la jambe est rentrée dans le pied, disons, tous les cartilages, tous les métamachins, là, tout ont été, je vous dis, 18 fractures, plus péroné et tibia à chaque jambe.
Et maintenant, ça va?
Eh bien, disons qu'on devait le transporter. Quand ils ont vu tout ça, ils ne pouvaient pas passer ni pour un endroit ni pour l'autre. Ils devaient le transporter au Val-de-Grâce. Il y a eu un bon Dieu pour lui qui ne le transporte pas au Val-de-Grâce. Parce que de toute façon, s'il avait transporté au Val-de-Grâce, il amputait. Hein, il aurait été amputé. Et donc, en 63, à cette époque-là, il y avait les gars des hôpitaux d'Alger, tout ça, puisque c'était au moment de la débâcle, quand les docteurs d'Alger, tout ça, partaient. Et rentrer à prendre la clinique à la clinique, c'est le docteur de la clinique d'un grand docteur de l'hôpital d'Alger qui l'a opéré, qui lui a sauvé les deux jambes, heureusement de lui. Sinon, il était amputé des deux jambes. Tibia, péroné, de toute façon, à l'heure actuelle, il marche. Mais le matin, avant de reprendre son truc normal, quand il descend les escaliers, il descend comme un enfant de 2-3 ans qui apprend à marcher. C'est-à-dire, il n'arrive pas, sa jambe n'est pas flexible, son pied n'est pas flexible, puisqu'il a plus que toutes ses attaches sont en plastique maintenant. Il a d'ailleurs une jambe qui est à 3 cm dans l'axe du pied, elle est légèrement déplacée. Mais enfin, disons que pour lui, il y a eu un bon Dieu qui ne tape pas sur la tête.
Voilà, surtout.
Hein, puisqu'il a eu la présence d'esprit de se remettre en position de saut. Hein, et se remettre normalement, il est tombé et il a eu de la chance. Hein. Dans son malheur, il a eu de la chance. Et il a eu autant de chance que le temps était mauvais, que l'avion n'est pas parti sur Paris. Sinon, l'envoyer au Val-de-Grâce, là, il a amputé. Je ne cherchais pas à comprendre. Hein. Tandis que là, il a été vraiment... Et alors, c'est marrant parce que le premier, quand il s'est réveillé, là, au bout de... Parce que là, l'accident a eu lieu le matin à 6h30. On l'a transporté à 1h de l'après-midi. Alors, d'abord, par ambulance, ils n'ont pas pu partir. Après, l'hélicoptère n'a pas pu décoller parce qu'il n'y a eu que l'avion qui est parti. L'avion, on l'a dit tant pis, on essaye. Et ils sont partis. Et donc, le lendemain, quand il s'est réveillé, le gars qui était à côté, c'était un légionnaire. Il lui dit, qu'est-ce que tu voudrais? Alors, mon mari, toujours inconscient, hein, parce qu'il avait d'accord, il était réveillé, mais encore un peu dans les bas. Puis, il se réveillait, il se rendormait, il faisait que ça. Une cigarette. Il est fumeur, mon mari. Il demande une cigarette. Et là, il dormait, il prend sa cigarette, puis il se rendort, puis il a foutu le feu au pyjama, il s'est brûlé, enfin bref. Vraiment, ça a été un concours de circonstances. Le gars lui dit, mais tu m'as demandé, moi je croyais que tu étais réveillée, mais il dit, non, j'étais réveillée. Oui, j'étais réveillée, on me pose une question, je réponds, mais j'avais pas encore tous mes esprits à moi. J'avais pas tous ses esprits à lui. Voilà.
Il est revenu
de loin. Oui. Mais disons que ça l'a vraiment, ça l'a touché, quoi, ça l'a vraiment marqué après, hein, parce qu'après, disons, il n'a pas été, ça y a laissé quelque chose, hein, il ne peut pas courir, il a eu une vie normale, si vous voulez, mais enfin, disons, cet accident lui a laissé quelque chose, hein, ça.
Qu'est-ce qu'il a fait ensuite?
Ben ensuite, bon, ben alors après, il est parti au Laos, mon mari, en 70, quand on est parti de... parti au Laos. Et au Laos, normalement, j'aurais dû, moi, partir avec lui. J'avais un gosse de 11 ans, un de 10 ans, enfin, pas, en 70, non, même pas, 11 ans. Il avait 10 ans, 9 ans et 8 ans. Seulement, celui de 10 ans rentre en 6e. Et comme il rentre en 6e, il fallait soit le laisser à la famille, soit le laisser en pension. Et mon mari, quand il était gamin, à l'âge de 14 ans, on l'a mis aux écoles d'enfants de troupe. Pour la bonne raison que ses parents étaient à Dakar. Et comme ses parents étaient à Dakar, eh bien, à l'époque, en 45-50, on ne pouvait pas donner... une instruction aux enfants comme ici en France. Alors ils ont dit, bon, de deux choses. Ou on le laisse à la grand-mère. Alors le premier séjour, qu'ils ont passé à Dakar, ils l'ont laissé à la grand-mère. Mais le deuxième séjour, à l'âge de 14 ans, mon mari, à la grand-mère, il faisait passer. Et il ne travaillait pas à l'école. Alors, comme il ne travaillait pas à l'école, les parents ont dit, bon, puisque c'est comme ça, on le met aux écoles d'enfants de troupe. Et en le mettant aux écoles d'enfants de troupe, à la sortie des écoles d'enfants de troupe, c'est comme dans certains collèges, vous devez, si vous ne payez pas les études, vous devez 5 ans à l'armée. Alors, il a été obligé de s'engager dans l'armée. C'est pour ça qu'il a été militaire. Parce qu'après, bon, ben, il avait fait son engagement, puis après, il a été militaire de carrière, quoi. Mais les premiers 5 ans qu'il a fait, lui, dans l'armée, ça a été parce que ses parents ne pouvaient pas payer les études et, disons, il fallait qu'il rende ses 5 ans à l'armée. Donc, après, quand mes enfants, eux, alors, quand mon mari, quand il a vu que les petits, on devait mettre l'aîné en pension, après ça aurait été le second, il m'a dit, bon ben voilà, tu restes en France, si j'arrive moi à revenir plus tôt, je rentrerai plus tôt, sinon, ben, parce que vraiment lui, il ne voulait pas mettre les gosses en pension, il en avait tellement souffert étant gamin d'avoir passé sa jeunesse entre les grands-parents et la pension, que lui, il a toujours dit, moi si j'ai des enfants, jamais mes enfants. Bon alors, donc quand mon mari est parti au Laos, il ne voulait pas laisser les petits, enfin il ne voulait pas nous séparer quoi. Et alors lui, il a dit, bon ben je vais aller là-bas, selon comment ça se passe, soit je vous fais venir, soit vous restez en France. Et comme là-bas, c'était à l'époque où il y avait souvent la Pumba, là, ça allait plus que mal, hein, puisque c'était au moment des Khmer rouges, des Khmer, je ne sais pas comment, là. Eh bien, ça allait mal, ça a commencé, c'était au moment de la débâcle. Hein. Alors mon mari, ben, quand il a vu ça, il a dit, bon, ben, il vaut mieux que tu restes, toi. Et donc, il est resté là-bas tout seul, mais il n'a pas pu rester plus de 5 mois et demi. À 5 mois et demi, il en a eu marre. Et il a pris sa retraite. Il a dit, puisque c'est comme ça, puisqu'on me donne pas ce que je veux, eh ben je prends ma retraite. Parce que chaque fois qu'on demandait une mutation pour se rapprocher près de chez nous, parce que nous, on est à 25 km d'ici, on est à... Nous, chaque fois qu'on a demandé, on a toujours demandé... Et chaque fois qu'on a eu... On a demandé... On nous a toujours envoyé toujours plus loin. Jamais on nous a envoyé à l'endroit où nous voulions. Tous les 2 ans, on fait une demande de mutation. Et jamais on nous a dit, on nous a accordé ce que nous voulions. Chaque fois, quand on a demandé, bon, de se rapprocher d'abord, quand on a demandé mon mari, avant qu'il rentre d'Algérie, lui, en 59, il avait demandé, il a la mutation en poche, tout pour être à... Heureusement qu'il prend 15 jours de permission, parce que s'il n'avait pas pris les 15 jours de permission, lui, eh bien, il était obligé de partir immédiatement, de retourner en Algérie. Il avait sa mutation en poche pour... Et mon beau-père était à la gendarmerie, le chef de brigade. Il reçoit un télégramme de son corps, de son bataillon, en lui disant qu'il fallait qu'il regagne immédiatement sa base en Algérie. Heureusement qu'il avait des permissions, sinon il fallait qu'il parte de suite illico. Il serait reparti alors qu'on avait en poche la mutation à... Cette mutation à... Bon, mais il est reparti en Algérie. Hein, cette mutation à... Ne l'avons jamais eue. Jamais, jamais, jamais. Après, quand il est rentré, il a été muté à... Quand il est après, on a fait le tour. Et chaque fois que nous demandions... une mutation pour nous rapprocher de chez nous, on nous a toujours envoyé un peu plus loin. Et la dernière, ça a été celle qui a fait déborder le vase et qu'il en avait marre de ces déménagements, marre de tout. Il a dit, puisque c'est comme ça, eh bien je prends ma retraite. La grosse erreur, hein. Ça a été la grosse erreur que nous avons fait, on le reconnaît à l'heure actuelle, mais comme toujours pareil, quand on est jeune, on ne réfléchit pas assez, hein. Eh bien, on n'aurait jamais dû, parce que moi, à l'heure actuelle, je n'aurais pas besoin de travailler, parce qu'il aurait une bonne retraite, mais comme il a pris la proportionnelle, et que on y avait tellement promis une belle place et tout ce qui s'ensuit, que le gars, ben, la place, quand nous sommes arrivés, quand il a eu pris sa retraite, ben, la place, on ne l'avait pas. Et d'usine en usine, il a été. Et maintenant, ben, ça fait 4 ans qu'il est au chômage. Alors, moi, au bout de. Quand j'ai vu ça, ben, j'ai dit, pour que moi, je trouve du travail. Que si on était resté dans l'armée, eh bien, à l'heure actuelle, moi, je travaillerais. Voilà, le problème est là. Il serait à la retraite, là, maintenant. Mais il aurait une retraite autre que celle qu'il a. Parce que là, il n'a qu'une retraite de 18 ans de service. Hein? Et qu'il aurait une retraite de 25 ans de service. Voilà, le problème est là. Et disons que mon fils aîné, stop, si elle a plus.